18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, bonsoir, chers amis auditeurs. Quel plaisir de vous retrouver. Vous le savez, c'est votre magazine, votre émission Les Informés, de 18h à 19h30. On est là pour faire quoi ? Commenter, analyser, décrypter toutes les actualités. Alors, ce qui a retenu notre attention, d'abord, direction le Qatar. Comme quotidiennement, nous allons rencontrer les jeunes des Élysées de Bondy, mais de Sarcelles, avec l'association Sportavi, en direct de Doha, pour vous faire vivre la Coupe du Monde avec les jeunes reporters en herbe qui, eux, sont avec nous depuis le Qatar. Ensuite, après, eh bien, j'ouvrirai l'antenne. Parce qu'on va parler, vous savez quoi, de cette Coupe du Monde. Qui vous soutenez ? La Tunisie, le Maroc, le Sénégal, la France ? Qui ? Qui de toutes ces équipes vous soutenez ? On vous attend. Comment vous vibrez les différentes victoires de ces équipes ? Eh bien, on vous attend au 01 53 48 3000, juste après Doha, le Qatar, à 18h10 précisément. Et ensuite, les débatteurs influenceurs à 18h30 jusqu'à 19h30, eh bien, nous reviendrons sur l'actualité qui a secoué cette journée. D'abord, Sandrine Rousseau, la Coupe du Monde, elle estime, tiens, que les joueurs de l'équipe de France sont des pleutres et déplorent leur manque de courage et d'engagement. Ça mérite une triple clochette. Tran. Sandrine Rousseau, notre députée, est-ce que c'est le moment de tacler les joueurs de l'équipe de France ? Faut les encourager, faut les aider, les accompagner, les galvaniser, Sandrine Rousseau ! Anthony, clochette ! C'est pas le moment, ma chère Sandrine Rousseau, franchement. Autre sujet qui a retenu notre attention, la réforme des retraites, plus que jamais, encore, des débats. Mais est-ce qu'on s'oriente vers un départ à 65 ans ? Ensuite, le chèque énergie, l'inflation, le cri d'alarme et d'alerte de tous les Français. Double clochette. La Chine, face à la contestation, eh bien le régime, il appuie fort sur le bouton rouge. On en parlera tout à l'heure. Voilà le programme qui vous attend, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et vous le savez, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Allez, direction, vous savez, le Qatar, pour vous faire vibrer cette Coupe du Monde avec les jeunes reporters en herbe. C'est parti, c'est tout de suite.
Les Informés, la Minute Coupe du Monde, avec Sportavi.
Et Samira Djouadi, bonjour ma chère Samira Djouadi, bonsoir également. Comment ça va Samira Djouadi ?
Écoute, super.
Ça va ? Ça va ? Comment ça va ? T'as la voix un peu enrouée quand même, hein ?
Mais parce qu'on n'arrête pas de crier.
Mais c'est bien, tant mieux, ça veut dire que c'est bon signe. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Comment avez-vous vécu votre journée, ma chère Samira ?
Eh bien, écoute, aujourd'hui, ça a été une très, très belle journée. D'abord, les enfants sont allés au souk. Ce matin, le souk El Wakif, que je conseille à tout le monde, pour ceux qui sont de passage à Doha.
J'ai vu les photos, magnifique, ouais. J'ai vu les photos passer sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est magnifique, ce souk. Ouais. C'est typique, ouais. Ça rappelle un peu le Maghreb d'ailleurs.
Eh bien, exactement, et puis c'est le souk le plus ancien donc, de Doha. Alors, il a été rénové, bien entendu, il est magnifiquement beau, mais c'est un des lieux qui est resté typique de ce qui existait auparavant, avant de construire des choses assez incroyables. Et donc, on est le matin, donc ils sont allés faire leur petite course pour acheter des souvenirs pour les parents. Oui. Et puis, cet après-midi, on a eu une chance incroyable. Nous sommes allés visiter dans une ville qui s'appelle Alcor. Mmh. En fait, c'est la ville de Sheikh Hamza, où elle a grandi. Et d'ailleurs, c'est la ville aussi où il y a le stade sous forme de tente, qui est à peu près à, on va dire, 40 minutes, 50 minutes de Doha. Mmh. Et on a eu la chance de rencontrer une école gérée par des femmes qataries et qui ont pu, en plus, nous présenter un peu toutes leurs œuvres artisanales qui sont extraordinairement magnifiques. Les enfants ont pu jouer avec des enfants qataries, ont pu visiter leur salle de classe. Donc, vraiment, un échange culturel qui est vraiment impressionnant et qu'on ne peut pas visiter quand on est un simple touriste, sauf quand on a la chance de côtoyer des Qataris et qui ont envie de partager avec nous. Et donc, on est revenu de cet après-midi, les gamins avec vraiment des yeux écarquillés de bonheur. Et puis surtout, on a été reçus, mais comme des ambassadeurs.
Et
c'était même presque gênant.
C'est même presque gênant. Tant mieux quand les enfants qui sont collégiens ou lycéens vivent cela et qui sont accueillis de façon VIP. Ça fait toujours évidemment honneur. Je crois que Mathéo est à tes côtés et ce soir, il va réagir.
Exactement. Eh bien, je te passe le petit Mathéo.
Le jeune Mathéo. Oui. Bonjour Mathéo.
Bonjour.
Alors Mathéo, tu as 11 ans.
J'ai 9 ans.
9 ans. Tu es encore en école élémentaire, donc primaire.
Oui.
En CM2 ?
En CM1.
En CM1. Mathéo, dis-moi, raconte-moi un petit peu. Samira, à l'instant, elle disait que c'était presque gênant d'être reçu en mode VIP. Toi, je pense que tu as dû aimer, non ?
Oui, j'ai beaucoup aimé.
Ouais, bah oui, quand on est reçu comme ça en grande pompe. Qu'est-ce qui te... D'abord, première question, Mathéo, qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce qui t'a frappé et qu'est-ce que tu aimes au Qatar à Doha?
Ce qui m'a frappé, c'est que tout est propre, tout le temps.
Oui.
Aussi, c'est très beau là-bas. Et ça parle. Tous les gens au Qatar parlent anglais.
Tous les gens parlent anglais, effectivement. Oui, c'est soit arabe, soit l'anglais, mais effectivement, l'anglais l'emporte quand vous avez toutes les nationalités du monde. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Samira me disait que vous aviez fait le souk, vous aviez fait des visites. Comment ça s'est passé, Mathéo ? Raconte-nous.
Alors, ça s'est très bien passé. À la visite, on a visité toute la ville, on a chanté, dansé. Là, on a mangé... Voilà. On a joué avec des autres enfants qataris.
Ouais.
Et on a dansé avec d'autres enfants aussi.
Et qu'est-ce qui t'a. Qu'est-ce que aujourd'hui, là, dans le cadre de la visite, qu'est-ce que tu retiens de cette visite, Mathéo ?
Je retiens que on peut jouer avec n'importe qui.
Oui.
Et on peut s'amuser avec n'importe qui. Et pour se comprendre aussi.
Ouais. L'équipe de France, j'imagine, tu as suivi le match. Comment tu sens les choses de l'équipe de France ?
Très bien.
Oui.
Je pense qu'ils vont gagner la Coupe du Monde.
Ah, carrément, c'est bien.
En plus, il y a des gens qui disent que Karim Benzema il va revenir en équipe de France.
Il paraît. Il paraît. Quel est ton joueur préféré, Mathéo ?
Kylian Mbappé.
Pourquoi ?
Parce qu'il est fort, rapide. Voilà. Et j'ai vu le père d'Mbappé quand on est sorti du stade France-Danemark.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? T'as pu échanger avec lui ?
Oui, il nous a dit que qu'on avait une chance incroyable d'être au Qatar. Il nous a dit de bien profiter de notre voyage.
Bon, qu'est-ce que tu dis à celles et ceux qui ont ton âge et qui nous écoutent partout en France, Mathéo ?
Que j'ai une chance extraordinaire d'aller à la Coupe du Monde au Qatar.
Ah, ça, je confirme.
Et aussi, il fait très très chaud.
Il fait très chaud. Bah, profites-en parce qu'ici, il caille. Il caille comme pas possible. Il fait très froid. Donc, j'ai envie de te dire, Mathéo, profite de cette chaleur parce que quand tu vas rentrer en France, crois-moi que tu vas endosser la doudoune. Merci, Mathéo. Bon courage et bon match. Hein.
Merci.
Samira, c'est demain que ça se passe. Vous y serez ? Vous allez vivre le match demain ?
Ah oui, oui. On est prêt pour, malheureusement, pour les Tunisiens. Je m'en excuse dès maintenant. Mais je sens que le match va être écrasant.
Écrasant. Il me disait, Mathéo, à l'instant, c'était mignon de sa part, qui fait très très chaud. Et je lui ai rétorqué, mais ici, il commence à cailler grave. Alors, profite bien du soleil, je te le dis.
C'est clair.
Eh bien, Samira, bon match pour demain et vous allez nous faire vibrer cela demain à 18h. On remet ça demain. Et il me semble demain, c'est avec Kaïs.
Exactement. En plus, on sortira à peine du stade. Donc, on sera dans l'euphorie totale, je crois, demain.
Allez, génial. Alors, vous allez nous faire vivre ça demain. Ouais. Et je l'espère. Merci, exactement. Samira. Merci à Mathéo. Et merci à tous celles et ceux qui vous accompagnent.
Merci, Adil. Merci à
très bientôt. À demain, donc, 18h.
À bientôt.
Merci, à très bientôt. Vous voyez, hein, c'est ce qu'on vous fait vivre désormais tous les soirs, ici même, depuis Doha. C'est parti.
Vibrez au rythme de la Coupe du Monde sur Beurre FM, avec le soutien du ministère chargé de la ville.
C'est l'heure des auditeurs, c'est parti, jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et vous le savez, je vous sollicite partout en France, vous nous appelez au 01 53 48 3000. Là, maintenant, Anthony vous attend au standard. Je voudrais vous poser deux questions. Alors, deux questions quand on en a. D'abord, le sport, la Coupe du Monde. Qui vous soutenez durant cette Coupe du Monde? Le Maroc, la Tunisie, l'équipe de France, le Sénégal ou encore d'autres équipes? Quelles sont celles et ceux que vous accompagnez? Quelles sont celles et ceux qui vous font vibrer jusqu'ici? Alors, oui, est-ce que cette Coupe du Monde, vous la vivez? Est-ce que vous la vivez avec quel pays, quelle nation footballistique? Et je viens de les citer, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, l'équipe de France, qui ou tous en même temps, venez nous raconter au 01 53 48 3000 comment vous vivez cette équipe, donc cette Coupe du Monde à Doha au Qatar. 01 53 48 3000, je vous attends tout de suite avec Antonio qui prend vos appels en direct partout en France. Mais également, je voudrais vous aussi vous soumettre un autre sujet, c'est le second, c'est la crise énergétique. Vous savez, paraît-il qu'il va y avoir, qu'on va subir des coupures d'électricité à partir du mois de janvier. Alors, on nous parle de, évidemment, que chacun d'entre nous doit faire attention. Est-ce que vous, vous comptez faire attention avec le gaz, avec l'électricité? Est-ce que vous comptez, évidemment, dans votre quotidien, parce que c'est des sujets qui nous concernent, dans notre quotidien, 01 53 48 3000? Eh bien, je vous attends là, maintenant, tout de suite, au standard. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite après, là, avec vos appels partout en France au 01 53 48 3000.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
18h17, je vous attends, c'est parti, les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000, les informés vous donnent la parole.
Et nous sommes avec Ziane qui nous appelle de Bourges. Deux questions que je vous pose, deux sujets qui nous soumet. Bonsoir Ziane, comment ça va?
Bonsoir, oui.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Rien, j'ai 14 ans.
14 ans, excellent. Ah bah si, t'es à l'école?
Oui, je suis à l'école. Oui,
en troisième?
Comment?
En troisième.
Oui, en troisième.
Ça se passe bien?
Oui, ça va, c'est plutôt bien. Mis à part les maths, des fois c'est un peu compliqué, mais on n'a pas le choix, on fait avec.
C'est ça, il faut travailler. Alors, Ziane, tu suis cette Coupe du Monde et quelle est ton équipe favorite? Justement, on en parle, on consacre... tous jusqu'à 18h30, justement, j'ouvre l'antenne pour qu'on en parle.
D'accord. Moi, mon équipe préférée, c'est la France.
Oui.
Et c'est Mbappé aussi, parce que il est fort, il est rapide aussi, comme tout à l'heure le garçon a dit. Mmh. Et puis, voilà, il a de la chance en tout cas d'être au Qatar.
Oui.
J'espère qu'il profite bien.
Mathéo, il a de la chance, hein. Il a profité d'une association au sport, Sport à Vie, justement, qui ont sélectionné des jeunes des quartiers populaires pour aller vivre cette Coupe du Monde.
Oui.
Tu suis tous les matchs?
Pas tous, mais j'ai vu la Coupe, j'ai vu le match à la télé sur la Une. Et plutôt, ils sont plutôt bien sortis.
Ouais. En dehors de l'équipe de France, qu'est-ce que tu suis comme autre match, Ziane?
Comme autre match c'est tout. L'Algérie, j'ai vu, mais ils sont pas passés. Mais après, il y a le Maroc aussi qui...
L'Algérie, elle joue pas, elle n'est pas qualifiée.
Ils sont bien sortis. Non, elle n'est pas qualifiée.
Le Maroc, votre poste de radio. Vous savez, ça crée des échos. Ziane.
Oui.
Il faut éteindre le poste de radio parce que ça crée des échos,
oui,
à l'antenne. Ouais, ah. Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes, tes potes, ils suivent cette Coupe du Monde?
Je dirais aller les Bleus et puis j'espère qu'on va gagner.
Oui, écoutez, c'est ce qu'il faut faire. Les soutenir, les accompagner dès demain au 01 53 48 3000. Merci Ziane d'être intervenu.
Mais de rien, je vous en prie.
01 53 48 3000. Je vous attends partout en France. Le Standard vous attend. Anthony vous attend justement. 01 53 48 3000. Là, maintenant, pour parler de la Coupe du Monde, quelle équipe, quelle nation vous soutenez? Parmi toutes ces nations footballistiques, il y en a beaucoup. Hein. Si vous êtes d'origine espagnole, vous êtes d'origine marocaine, vous êtes d'origine sénégalaise, vous êtes d'origine tunisienne, vous êtes double nationalité, vous soutenez à la fois l'équipe de France, mais également une autre équipe. Pourquoi pas? C'est aussi le cas. J'en connais beaucoup dans mon entourage qui soutiennent évidemment, voilà, cette schizophrénie. Hein. C'est... Non, mais c'est les deux à la fois. Hein. Un papa, une maman, voilà. Il y a Khalid de Toulouse. Bonjour Khalid.
Bonsoir Akil, comment vous allez?
Mais très bien mon cher Khalid, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Alors je suis conducteur accompagnateur, je suis sur la route.
Eh bien, prudence à vous. Alors cette Coupe du Monde, vous la vivez comment? Qu'est-ce qui vous soutenez et comment vous la vivez?
Ben, qu'est-ce que vous dites? Moi, tant qu'il n'y a pas l'Algérie, ce n'est pas vraiment...
La Coupe du Monde.
Il n'y a pas l'Algérie, mais bon, je soutiens le Maroc quand même, hein.
Donc vous avez regardé le match?
Ah oui, ça. Moi je trouve qu'ils ont bien joué déjà contre la Belgique. Vraiment, c'est un très très bon match. J'ai rien à dire, mais vraiment. Et là, parce que voilà, parce qu'ils étaient contents pour nous par rapport à la Coupe d'Afrique. Et là, on est venu au Maroc quand même. Hein. C'était clair. Hein.
Ça se passe bien cette Coupe du Monde. Vous la vivez comment là? C'est plutôt bien. Il y a une bonne ambiance quand même. Hein.
Ah oui, bien sûr. C'est normal.
Mais après, je vous dis ça, Khalid, parce qu'on a tellement tapé sur le Qatar que finalement tout se déroule plutôt bien pour le moment.
Ben, pour l'instant, ça marche très bien, hein, c'est vrai. Il y a tout le monde regarde, tout le monde parle. Moi, au niveau de mon travail, tout le monde parle. Mais bon, il y a plein de monde qui se pose la question par rapport à l'Algérie. Mais bon, on n'a pas eu cette chance. C'est comme ça.
C'est comme ça, comme vous dites, effectivement, c'est la règle du jeu. C'est ça.
C'est la règle du jeu, voilà. Et voilà, monsieur Adil Parkane, voilà.
Eh ben merci à vous, mon cher Khalid. Merci de votre fidélité.
Bonne soirée.
Merci. 01 53 48 3000, je vous attends. Anthony vous attend au Standard. 01 53 48 3000, je sais que vous êtes nombreux. Venez parler de cette Coupe du Monde. Quelle équipe vous soutenez? Tout de suite, 01 53 48 3000, je voudrais que le Standard explose dans tous les centres parce que longtemps on a dit que cette Coupe du Monde, on devait la boycotter. Pas nous. Mais beaucoup disaient, oui, il fallait la boycotter parce que, évidemment, le Qatar ne respectait pas certaines règles. Bon, moi je fais un constat, que, tout simplement, eh bien, cette Coupe du Monde draine à la fois beaucoup d'audience, un engouement, mais aussi un intérêt dans toutes les équipes, quelles que soient les équipes d'ailleurs. On le voit, TF1 fait des cartons d'audience, pas possible. Nordine, vous nous appelez du 78, Nordine. Quelle ville du 78, Nordine?
Je suis de Trappes.
Trappes.
Ça va, Adil.
Ça va, très très bien, Nordine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis dans le bâtiment, je suis dans la maîtrise d'œuvre du bâtiment.
Eh bien, bienvenue, Nordine, alors, cette Coupe du Monde. Vous soutenez qui et comment vous la vivez?
C'est une Coupe du Monde qui déroule très très bien.
Ouais.
Moi, avant que ça commence, la Coupe du Monde, si on entend les médias par rapport au Qatar, par rapport à la polémique qui a été sur le Qatar,
ouais.
Mais franchement, ils ont bien assuré leur Coupe du Monde.
Pour le moment, là, on n'a rien à dire, sans faute. Hein.
Voilà, sans faute, voilà. Je crois même les Européens, ils n'arrivent pas à faire ça. Moi, je le dis, je ne crois pas. Hein.
Ouais. Vous soutenez qui comme équipe?
Moi, je suis l'Algérie, mais il n'y a pas l'Algérie, vive le Maroc.
Je vois que tout le monde est derrière le Maroc, là, effectivement.
Ah oui, je suis algérien, c'est notre deuxième pays, hein. c'est le Maroc. Voilà, il faut le dire.
C'est le même peuple.
En dehors de la politique, les Marocains, on est frères, on est, voilà.
Oui, c'est vrai.
On ne souhaite que la réussite pour l'équipe marocaine, Inch'Allah.
Inch'Allah, comme vous dites. Mais écoutez, merci d'être intervenu, Nordine, de Trappes.
Merci, Adil, et bon courage. Merci
à vous. Merci de votre fidélité. Hein. Ça fait plaisir.
Merci.
On va aller direction Toulon. On va accueillir Arkham, c'est ça, Arkham?
C'est Akram.
Akram, Anthony. Il a un problème avec les prénoms, Anthony. Hein. Je vais le briefer, je vais lui tirer les oreilles. Akram, bienvenue. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Akram?
Je suis prestataire avec le groupe JPV Kia Toyota.
Bon,
donc je prépare des voitures pour les clients.
Bienvenue Akram.
Merci.
Allez, parlons de cette Coupe du Monde justement. Comment vous la vivez et quelle équipe vous soutenez?
Bon, en fait, vu qu'il n'y a pas l'Algérie, donc je soutiens aucune équipe. À part hier, j'ai regardé le match de Portugal-Uruguay. Mmh. Donc j'ai regardé vite fait, quoi.
Ouais, vite fait.
Ouais.
Et cette Coupe du Monde, vous la... Finalement, elle se déroule bien ?
Bah, franchement, là, j'ai regardé, oui, elle se déroule bien, à part, qu'il n'y a pas l'Algérie, on est déçu par rapport à ça. Et après, tout ce qui est, j'ai regardé vite fait, quelques matchs vite fait, mais le niveau, il est trop haut. Donc, ouais. Voilà.
Ouais. Bah, tant mieux. Merci, Akram.
De rien.
Et puis, prenez soin de vous.
Merci à vous aussi. Au revoir. Et bon courage.
Merci, Lania, qui nous appelle de Paris. Lania, une voix féminine. Bonsoir, Lania.
Bonsoir, monsieur.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Lania ?
Moi, je suis à la retraite.
Bienvenue, Lania. Alors, cette Coupe du Monde.
Ben voilà. J'envoie toutes mes meilleurs vœux pour le pays de Qatar.
Oui.
Pour leur la Coupe du Monde. Et puis, comme je soutiens très, très souvent, c'est l'Espagne. Mmh. Comme je suis algérienne. Mmh. Je tiens pas ni Cameroun ni aucun pays africain. Mmh. L'Espagne,
bah pourquoi pas.
L'Espagne, oui. Chacun ils jouent bien. Soutenir, tout le monde joue bien, bien sûr. Ouais. Mais l'Espagne, voilà.
Ils ont fait un beau match, là.
Ben, bien sûr. Ouais. Enfin, tout le monde a joué bien. Toutes les équipes du monde.
Eh ben merci, Lania.
Merci, très gentil.
Allez, au plaisir.
Au plaisir.
On va aller accueillir à Argenteuil. Alors, son prénom, quel est le prénom? Parce que je vous avoue que moi, j'ai...
Béchouta.
Comment?
Benchouta.
Ah, il n'a pas bien compris alors, Anthony. Benchouta, bienvenue. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis dans le transport.
Le transport. Bienvenue, on vous écoute pour cette Coupe du Monde. Alors, mon cher Benchouta.
Oui.
Vous soutenez qui ? Vous regardez les matchs ? Vous suivez cette Coupe du Monde ?
Bien sûr, je regarde les matchs, mais je soutiens... Le Maroc, la Tunisie.
Oui. Vous avez vu les matchs, là ?
Oui, j'ai vu les matchs.
C'est bien, hein ? Ça joue, hein ?
Oui.
Ça joue. C'est bon, hein ? Le niveau est bon, quand même. On peut le reconnaître, hein ?
Le niveau n'est pas très haut, oui. Mais...
moi, je trouve qu'il est bon, quand même. Oui. C'est bien. Je dirais même, les petites équipes viennent
de déstabiliser. On entend la demi-finale et la finale, peut-être...
Ouais.
La finale, la demi-finale, peut-être qu'ils vont jouer bien.
Bah écoutez, espérons-le. Merci Benchouta. Au plaisir.
Oui.
Je vais accueillir Elias de Valence, direction Valence. Oui. On fait le tour de France, c'est bien. Hein. Ça fait plaisir. Oui. Bonjour Elias.
Bonjour.
Toi, t'es un jeune collégien.
Oui.
Quelle classe ?
Sixième.
Ah, tu kiffes le foot ? T'aimes bien le foot ?
Oui, j'en fais depuis que je suis petit.
Oh là là, tu France fais du foot donc Maroc. Alors ? Tu fais du foot ?
Oui.
Quel soutien, mon cher Elias ?
La France et le Maroc.
La France et le Maroc. Donc j'imagine que t'as joué avec... que t'as regardé le Maroc jouer face à la Belgique. Oui. Quel match quand même, hein ?
2-0.
Ah là là. Et alors que là, tu vas soutenir les deux équipes ? Tu vas continuer de les soutenir ?
Oui.
Bon, tu aimes donc le foot, donc tu iras jusqu'au bout de cette Coupe du Monde. J'attendais que tu le dises.
Mbappé, il a très bien joué.
Ouais, Mbappé aussi, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Merci Elias.
De rien.
Je vais accueillir Habiba. Habiba, vous nous appelez du 95. Quelle ville du 95, Habiba ?
Dans Montigny-le-Cormeil.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Habiba ?
Je suis hôtesse d'accueil.
Bienvenue, ma chère Habiba. Je vous écoute. C'est donc, parti pour la Coupe du Monde. Vous êtes très nombreux à vouloir réagir. C'est bien.
Voilà. Donc, en fait, la Coupe du Monde, cette année, elle est un peu à la fois bizarre et magique.
Oui.
C'est-à-dire bizarre parce que certaines équipes qui étaient plus fortes auparavant, on les voit moins.
C'est vrai, jouer. Vous avez raison. C'est vrai.
C'est vrai. Elle a pris une autre tournure. Mm. Je soutiens principalement le Maroc parce que c'est le même jeu que les années 1986. Mmh. On retrouve la même ardeur, la même niaque. Mmh. Donc voilà. Et puis surtout, comme vous dites, hein, j'ai entendu tout à l'heure, on a toujours critiqué le Qatar parce que c'était le premier pays arabe à organiser, donc forcément l'image clichée, alors que ça se déroule comme dans une ambiance bon enfant. Mmh. Je trouve que c'est une belle, belle et bonne Coupe du Monde.
C'est vrai, belle image qui est véhiculée. Vous avez raison de le rappeler. Merci, voilà, Habiba.
Exactement. Je vous en prie.
Et bon, merci. Et que cette, évidemment, qu'on continue à vivre
je
cette Coupe du Monde.
Donc, en premier lieu, le Maroc, parce que je suis d'origine marocaine. Et allez, la France aussi, parce que je vis en France. Donc, j'ai les deux nations qui sont dans mon cœur.
Eh bien,
et continue, que le meilleur gagne.
Que le meilleur gagne et continue de les vivre.
Voilà.
À bientôt, Habiba.
Merci, au revoir.
Au revoir. Auria du 75, donc, de Paris. Bonsoir, Auria.
Oui, bonsoir, bonsoir.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Auria?
Elle est retraitée, Auria.
Vous avez raison, et alors, c'est bien.
C'est une retraitée.
Oui.
Bah, écoutez, moi, je suis très, très heureuse de pouvoir enfin parler à BRFM. Mmh. Bien entendu, je suis très heureuse de cette Coupe du Monde qui se passe au mieux et mieux que ce qu'on en pensait. Bien entendu, en tant que Maroco-Algérienne française, je soutiens le Maroc et bien sûr le pays de cœur, la France. Bien
la France. Vous êtes les trois à la fois et évidemment
voilà,
vous êtes embarqués.
Bon,
non mais c'est bien, c'est bien.
Grave.
Ça
mais
fait plaisir.
Soutiens, voilà, je soutiens le Maroc et la France.
C'est bien, ça se passe bien cette Coupe du Monde. Hein. Elle est belle, hein. Elle est belle à regarder.
Oui.
Elle est...
Mais oui, le partage et la bonne humeur et puis c'est l'esprit du sport.
L'esprit du sport,
c'est
comme
du sport.
Dites. Oui, c'est vrai.
Voilà, c'est ce qui compte.
Oui, c'est vrai.
L'union dans le sport.
Même si on a tendance à politiser le sport.
Oui, un peu quand même. Un ouais. peu. Mais bon, restons optimistes.
Restons optimistes. Vous êtes très, très, très nombreux à nous appeler au standard et ça fait vraiment plaisir au 01 53 48 3000. Auria, bonne soirée.
Oui.
Ouais, et continue
aussi,
de faire vivre cette Coupe du Monde.
Merci, merci.
Allez,
au revoir.
Tiens, au revoir. Je vais aller, tiens. Je vais aller à Marseille, chez nos amis marseillais. Leïla, bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous?
Mais très bien. Moi, quand je vous écoute, je suis ravi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Leïla?
Moi, je suis des assurances.
Les assurances, oui. Allez, on vous écoute pour la Coupe du Monde.
Ben, moi, je soutiens tout le monde. En fait, je suis contente pour tout le monde, tout ce qui gagne. Comme elle dit Sabrina, non, comment elle s'appelle? Vanessa.
Oui,
hein.
Vanessa,
on est des terriens.
Ouais. Ouais.
Voilà, on est des terriens, donc on se soutient tous. Mais, ceci dit quand même, je tiens à dire, j'étais contente pour le Maroc, parce que je suis marocaine de France. Et franchement, j'étais heureuse, je suis heureuse pour eux, mais je suis contente pour tout le monde. Tout ce qui gagne, tant mieux pour eux. Voilà.
Exactement, mais, vous allez bien. Ouais. Bah
voilà,
écoutez,
voilà.
Vive la Coupe du Monde.
Voilà, dire oui, moi je soutiens tel pays parce que, non, bah, c'est tout le monde. Tout le monde y met du sien, ils sont là pour jouer, ils sont là pour... voilà, il faut être content pour tout le monde.
Merci,
voilà.
Leïla de Marseille.
Allez, bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci.
À vous.
Au revoir.
Bonne soirée. On marque
allez,
une pause et on se retrouve dans une poignée de minutes, 01 53 48 3000. Vous êtes très très nombreux ce soir à intervenir et ça fait plaisir. On parle de Coupe du Monde et on va retrouver le face-à-face dans une poignée de minutes. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h40, bienvenue à vous tous, si vous venez de nous retrouver, c'est parti pour le face-à-face, et merci à celles et ceux qui ont été très 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 nombreux, au standard, à vouloir réagir sur la Coupe du Monde, et la nation évidemment, qu'ils accompagnent. C'est parti, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Avec Ochenir Menad, consultant numérique, ancien élu. Comment ça va?
Très bien, merci Adil et vous.
Tout va bien?
Très bien, parfait.
Bon, vous êtes de bonne humeur, bonne composition,
toujours,
ça va.
Toujours.
Il est en train de me dire, attendez, je vais vous envoyer. Je balance tout en direct à nos auditeurs.
Vous pouvez, vous
je vais lui, je vais lui donner toutes mes fonctions là. J'ai tout en tête. Tout est en tête. Regardez, l'élu de la Courneuve, il est là. Ancien Parti Socialiste, je me souviens. Maintenant, il est là, il attend. Il attend qu'on vienne lui ouvrir les portes.
Non, pas vraiment.
Je rigole.
Bonsoir Adil Farkan.
Aminsa, ça va?
Très bien et vous? Bonsoir.
Tout va bien.
Auditeurs.
Comment vous vivez, vous deux, cette Coupe du Monde? Parce qu'on en parlait avec les auditeurs qui étaient très 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 nombreux ce soir, comme chaque soir.
Bah, c'est un véritable plaisir. C'est
ouais,
un
c'est
régal,
vrai, hein.
C'est un régal.
Moi, je suis surpris par la qualité et le professionnalisme des Qataris.
On a, oui, évidemment, il y a cet aspect-là, mais il y a également sur l'aspect purement footballistique, on a eu des matchs de grande qualité, on a eu de belles surprises. Je ne vais pas rappeler le Maroc, on en a suffisamment parlé, mais on a des nations qui se sont révélées dans cette Coupe du Monde. Et je crois que c'est un vrai plaisir. Et sans doute que les fortes audiences de diffusion des matchs témoignent de cette.
TF1 cartonne. Hein.
Exactement. Je crois plus de 50% total. De part de marché.
Mais énorme, j'ai jamais vu. Énorme. Donc je crois que même eux-mêmes, absolument... ils sont surpris. Hein.
Oui, oui, on voit bien que d'ailleurs, l'appel au boycott n'a pas fonctionné.
N'a pas fonctionné, zéro. Voilà, effectivement. Ménade.
On a des équipes qui se sont révélées, moi, notamment l'Arabie Saoudite, moi qui a été ma première surprise sur cette compétition. Et je me réjouis que l'effet boycott n'ait pas fonctionné, parce que naturellement, il y a eu, même s'il y a eu des tragédies, même s'il y a un impact environnemental certain de cette compétition, c'était il y a 12 ans que ça s'est décidé, c'est pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a du spectacle. Les Qataris ont investi énormément pour pouvoir délivrer ce spectacle-là. Donc,
160 milliards.
Et voilà, et après, à l'avenir, à la FIFA et autres, de ne pas refaire tomber dans les mêmes écueils.
Allez, messieurs, tout de suite, ce premier sujet qui a retenu notre attention aujourd'hui, vous savez, c'est ce débat qui continue d'être récurrent, c'est la réforme des retraites. L'exécutif, le gouvernement, lui, il veut repousser l'âge de départ à 65 ans. Un débat qui fait toujours évidemment polémique, vous le savez, puisque autour du 15 décembre, avant d'examiner au Parlement, au tout début de l'année, et évidemment, faire passer l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 65, ça divise la classe politique. C'est le moins qu'on puisse dire, Amine Sarr.
Oui, oui, ça divise évidemment. Et moi, je crois que l'annonce des 65 ans, c'est la première annonce. Je ne crois pas que ce soit ce qui est réellement visé par le président de la République et par le gouvernement. On se dirigerait plutôt vers un report autour de 64 ans, puisqu'il va falloir aller chercher les Républicains pour faire voter cette réforme. Mais ce sera sans doute pas sans conséquence pour eux, puisque il y a une forte opposition de la part à la fois de la NUPES sur cette question. Il y a une opposition du Rassemblement National qui semble un peu ambiguë sur ce que sera sa position. Et puis évidemment, on le voit bien, ce qui était proposé au départ, c'était surtout d'aller vers une réforme pour instaurer le système à points. Ça a été complètement écarté par le président de la République. Et je crois qu'il tient absolument à cette réforme. Il l'avait annoncé déjà lors de sa première campagne présidentielle en 2017. Il n'a pas pu le faire, notamment pour les nombreuses raisons, la crise des gilets jaunes, la crise sanitaire, etc., qui ont un peu compliqué le calendrier des réformes sur le mandat précédent. Donc il y tient absolument sur ce mandat-là, sauf que, à mon avis, il va falloir quand même trouver un équilibre pour permettre que ce texte qui va être présenté, je crois, dans une quinzaine de jours, à la fois au Conseil des ministres et puis ensuite qui sera engagé en débat.
Un débat sans fin, cette histoire, quand même, hein.
Oui, oui, mais ça a toujours été le cas sur la question sur la question des retraites. Tous les gouvernements, depuis au moins 25 ans, se sont toujours retrouvés en grande difficulté. Et je crois qu'on se dirige, à mon avis, vers un 49-3 de nouveau. D'ailleurs, Elisabeth Borne a clairement dit que s'il n'y avait pas de majorité,
ils vont se retrouver dans la
elle
rue.
Elle dégainera de nouveau
les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, ils risquent de se retrouver dans la rue.
Les partenaires sociaux ont annoncé qu'ils se mobiliseront de manière très importante s'il y avait une obstination de la part du gouvernement.
Mais là, Dauchenir.
Effectivement, alors, moi, il y a quelque chose qui m'interroge à chaque fois, c'est que tout le monde dit qu'il faut réformer la réforme, réformer les retraites, mais dès que quelqu'un s'y attaque, on a des murs qui s'érigent de manière assez mécanique et inquiétante. Alors, moi, il y a une chose, moi, que je voudrais souligner, c'est les 35 heures. C'est-à-dire qu'on est passé de 39 heures à 35 heures avec l'idée qu'on allait travailler le même nombre d'années. Moi, sur le plan des chiffres, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours intrigué.
C'est quoi ?
De se dire qu'on pouvait travailler 4 heures de moins par semaine pendant toute sa carrière et espérer partir à la retraite au même moment dans un système par répartition comme qui est le nôtre. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, quand j'entends effectivement alors LR qui essaye de faire mettre de l'eau dans son vin à la majorité présidentielle, n'oublions pas la réforme de 2010, hein, conduite par Éric Woerth et autres. Éric Woerth d'ailleurs qui a rejoint En Marche, qui allait pousser le curseur jusqu'à 67 ans dans certains cas. Donc, j'ai l'impression qu'on est aussi un peu dans la politique politicienne. Très clairement, il faut réformer les retraites. L'enjeu, c'est quoi ?
C'est... On n'y arrive pas, c'est ça la difficulté.
Je vais vous dire moi, mon point de vue là-dessus, c'est que l'âge, on se focalise sur l'âge légal de départ à la retraite. On se focalise pas assez, selon moi, sur l'état dans lequel on arrive à la retraite. Parce que partir à la retraite à 60 ans, complètement cassé, versus 65 ans, en bonne santé, en bon état, et capable de profiter du restant des décennies, en espérant que ce soit des décennies qui nous restent à vivre, c'est selon moi là que devrait être le débat. Et l'âge légal
qui la question de la pénibilité,
à toutes les professions, en fait, à tous les secteurs d'activité, est une bêtise. L'âge légal de départ par branche dans le bâtiment...
C'est quoi, j'ai manqué un chapitre. C'est quoi qui est la bêtise ?
D'avoir un même âge légal de départ pour tous les secteurs d'activité. Oui. Moi, je peux vous parler dans mon domaine, dans le numérique, il y a des gens qui peuvent travailler jusqu'à 65-70 ans. Tant que le cerveau et les mains fonctionnent, on ne porte pas de charge lourde particulière, on n'a pas physiquement, en tout cas, d'efforts particuliers à fournir. À l'inverse, dans le bâtiment, où mon père et d'autres ont travaillé, je peux vous dire qu'arriver à la cinquantaine, ça commence déjà à être compliqué.
55 ans, ils sont morts.
À 60 ans, c'est encore plus compliqué, je vous laisse imaginer. Donc, il y a un débat sur l'âge légal, on focalise sur quelque chose, sur une donnée.
Il a pas
alors
tort,
qu'on devrait focaliser sur
la manière dont il amène
le vécu et l'état dans lequel on est censé arriver à la retraite. Parce que, sachant que si la retraite, on parle d'une forme d'inactivité, mais non, il peut se passer des choses une fois qu'on est à la retraite. On peut s'investir, on peut faire du bénévolat, faire plein de choses, et tout aussi utile à la société. Et on n'a pas ces débats. On a un débat sur l'âge, et puis tout le monde va descendre dans la rue, tout le monde va gueuler. Donc, quitte à mettre tout le monde dans la rue, autant pousser le curseur et aller à 65 ans. De toute façon, si ça passe, même avec un 49.3, ça passera quand même.
Amine.
Oui, non, mais
intéressant ce que dit.
Mais il a parfaitement raison. D'abord, il y a la question de la pénibilité qui est pas suffisamment prise en compte dans les discussions. Donc elle est même parfois absente.
Un amendement ou quelque chose comme ça.
Exactement. Et la seconde, c'est la question du timing, c'est-à-dire que aujourd'hui, ni sur la situation politique. Je crois qu'il y a une situation politique qui ne permet pas aujourd'hui d'avoir une discussion sereine, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Et la dernière chose, c'est que le rapport du comité d'orientation des retraites, il dit, à ce stade, c'est pas nécessaire parce qu'on a un excédent. C'est pas moi qui le dis, c'est le comité d'orientation qui dit, on a un excédent de 3 milliards. Alors maintenant, la majorité présidentielle change un peu sa version en disant oui, il y a en effet un excédent, mais à l'horizon 2027, le compte n'y sera pas, etc. etc. Sauf que dans la situation actuelle du pays, à la fois, on le voit bien avec l'inflation, le pouvoir d'achat qui est en baisse, etc. Je ne crois pas que mettre cette discussion-là au cœur des débats doit être la priorité. Je conçois qu'il faut un débat sur la réforme des retraites et il faut qu'on tienne compte de la pénibilité, qu'on tienne compte
de la réforme de l'époque, etc. Puisque vous faisiez référence, elle était un peu plus compliquée que celle d'aujourd'hui.
Mais celle d'Edouard Philippe.
Mais oui, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire qu'on annonce des choses absolument inacceptables pour en réalité viser un objectif en dessous. Là, on annonce 65. L'objectif réel, c'est 64. Et d'ailleurs, les Républicains ont déjà annoncé qu'ils iraient plutôt vers un âge pivot à hauteur de 64 ans et non pas 65. Et donc ce sera quelque sorte la petite concession que fera la majorité pour aller chercher les parlementaires républicains.
Il est 18h49-50 précisément. Chèque, énergie, montant, on va parler aussi, vous savez quoi, de l'inflation, de la hausse des prix. Comment finalement va-t-on s'en sortir ? Parce qu'il y a deux éléments, messieurs, le cri d'alarme et le cri d'alerte. Parce qu'il y a des choses qui vont peut-être changer au mois de décembre. Mais bon, c'est un vrai sujet de société. Amine Sarr, là, pour le coup, on peut s'inquiéter.
Ben, je le disais à l'instant, déjà, il y a la question de l'inflation qui pèse énormément dans le revenu, dans le pouvoir d'achat des ménages. Il y a la question de l'énergie aussi, qu'on l'a bien vu. Hein, c'était déjà compliqué là, avec la fin des ristournes qui va avoir lieu à la fin de l'année, tout début d'année prochaine. Ça va encore amplifier la pression sur les ménages. On aura également tout un tas d'augmentations qui surviennent au 1er janvier, on le sait. Tout ça mis bout à bout, avec la fin aussi du quoi qu'il en coûte, etc. Tout ça mis bout à bout, quand même, crée les conditions d'une situation sociale dans le pays qui, à mon avis, pourrait être explosive, même si je crois quand même que le président de la République a maintenant une certaine expérience des mouvements sociaux, notamment les mouvements spontanés comme les Gilets jaunes, etc. Je crois qu'il a pour objectif de tracer sans regarder ce qui se passe à droite et à gauche.
Mela Duchenir,
si on réglait le problème à la base, à savoir quand on parle de l'énergie, des coûts de l'énergie. Aujourd'hui, on a un parc nucléaire en France, je parle que de l'électrique, hein. On a un parc nucléaire en France qui est d'une soixantaine de centrales dont la moitié sont hors service. Chèque énergie, pour moi, c'est des mesures transitoires. Ça ne doit être que des rustines. Ça devrait être très conjoncturel et en espérant que ça ne devienne pas un mode d'opérer. Mais investissons quand même pour régler nos problèmes à l'origine. Et moi, pareil, je suis un peu inquiet de ne pas voir, c'est peut-être que ça n'est pas assez de surface médiatique, mais ce qui est fait pour sortir de l'ornière de ce parc nucléaire qui est à moitié HS, pour des raisons, on ne va pas revenir, hein, politiques et autres. Premier point. Deuxième point, effectivement, on a, j'ai envie de dire heureusement, qu'on peut compter sur l'État pour donner des chèques énergie, des primes pour ceux qui se chauffent au bois, des primes réparation pour faire réparer ces équipements. Il faut aussi que, quelque part, c'est peut-être la presque pas une bonne chose, une bonne nouvelle, mais en tout cas c'est une bonne chose que d'instiller cette culture d'aller réparer ces appareils. Donc ça peut aussi être un peu comme à l'époque du Covid où on a commencé à comprendre l'intérêt des masques et du gel hydroalcoolique, même si maintenant c'est concept de l'histoire ancienne. Commençons aussi à essayer de faire ce fameux pivot de culture pour que les autres années on ait moins besoin d'être soutenus sur les coûts de l'énergie. Mais par pitié, attaquons-nous au problème à la racine.
Eh ben on va en parler. On va en parler justement, parce qu'on va parler de ces chèques qui vont être versés. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que les aides financières qui vont être versées aussi, est-ce que ça suffit? D'autres vont disparaître, d'autres apparaissent. 0153483000, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas. On marque une pause, à tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
18h55, Les Informés avec Amin Saha, mais également aussi avec Melad Ouchenir. Messieurs, des aides financières qui vont être versées courant décembre, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, d'autres qui vont disparaître. Alors, on parle d'un chèque énergie exceptionnel qui sera versé automatiquement à 12 millions de ménages. 200 euros pour les 6 millions de foyers qui avaient déjà reçu un chèque énergie en 2022 et 100 euros à 6 millions de ménages supplémentaires. Je pense que ce sera d'ici décembre, courant décembre. Ça suffit ?
Non, évidemment que ça ne suffit pas. On disait à l'instant, il y a eu tout un tas de mesures et c'est bien que l'État puisse venir en aide aux ménages les plus fragiles, en tout cas ceux qui mettent un genou à terre dans la période qu'on connaît.
Ouais.
Mais en même temps, on disait également, et Ménade le disait, il faut attaquer le problème à la racine. Et le problème à la racine, c'est pas du saupoudrage avec des mesures comme celles qu'on a connues dans les
périodes. Je suis d'accord avec vous, mais si on ne fait rien, on va dire l'État ne fait rien.
Mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire et en l'occurrence, je pense que par exemple, aller vers une augmentation des salaires, c'est plus pérenne, c'est plus vertueux que de s'obstiner à rester sur des aides. Parce que finalement, les aides que l'on perçoit, que celles et ceux qui perçoivent, elles sont payées par qui ? C'est de la redistribution. Donc, finalement, c'est de la taxation aussi supplémentaire. C'est des cotisations, etc.
Les salaires aussi, les salaires.
Mais là, c'est génial.
Je pense que pour attaquer le problème à racine, comme on le disait à l'instant, il faut aller vers une augmentation des salaires. On ne peut pas avoir une inflation à près de 10% et une augmentation des salaires à hauteur de 3%.
Manad n'a pas l'air d'accord.
Je suis à moitié d'accord. Formellement, comme ça, facilement, pour dire on augmente les salaires. Mais les salaires, c'est quoi ? Les salaires, c'est versé donc, par l'entreprise. L'entreprise, donc, c'est en chiffre d'affaires. Faire et in fine, en bout de ligne, c'est le consommateur qui paye un peu plus cher. L'argent magique n'existe pas.
Il paye déjà plus cher, le consommateur.
Mais
il paye pour le capital et pas pour le travail.
Dans ce cas-là, agissons plutôt sur le sujet de l'inflation. On en avait parlé ici. Je vais en mettre un tout petit coup sur la grande distribution qui profite des effets d'annonces et parfois d'aubaine pour on va dire augmenter de manière très déraisonnable ces prix. Penchons-nous un peu plutôt là-dessus, parce qu'augmenter les salaires, on peut les augmenter les salaires, derrière on va augmenter les prix de l'énergie, ce que vous voulez.
C'est ça, donc, c'est le après on est dans
cercle,
le
on est sur un cercle.
Et qu'est-ce qui se passe quand demain il y aura
on est sur un cercle vicieux. Alors déjà moi, je me réjouis que l'État ait quand même, dans un temps relativement rapide, mis en place un dispositif, même s'il est imparfait, etc. Ça permettra à certaines familles de passer l'hiver
quoi qu'il en coûte.
Très correctement. Oui, mais on est quand même dans un pays avec un taux de prélèvement particulièrement élevé. C'est quand même pas mal qu'une fois de temps en temps, ça revienne sous forme d'aide. Même si moi, je ne suis pas partisan du fait que l'État, comme ça, distribue des chèques de manière très systématique. De temps en temps, dans des situations comme celle-là, de manière assez exceptionnelle, c'est entendable. Il ne faut pas que ça devienne une espèce d'économie comme ça, dirigée, où l'État vous donne de quoi payer l'électricité, de quoi payer à manger, etc. Chacun devrait pouvoir avoir les moyens de subsistance. Mais il y a les salaires d'un côté, sans doute, il y a quelque chose à faire sur les salaires. Il y a surtout les prix de l'autre à regarder. Et enfin aussi l'offre, parce qu'on parle de l'offre d'énergie, mais de manière générale, diversifier l'offre a aussi tendance à faire baisser les prix. Et donc ne trompons pas de ficelle à tirer, parce que en allant vers ces augmentations de salaire comme ça, un peu magiques d'ailleurs, qui ne peuvent pas exister techniquement et financièrement et économiquement. C'est souvent une lubie très NUPES d'ailleurs dans sa coloration, de dire faut augmenter les salaires, comme si le chef d'entreprise avait un bouton salaire qui pouvait déplacer vers le haut et ça augmenterait les salaires de tout le monde. C'est absolument pas comme ça que ça marche. Quiconque a déjà géré ne serait-ce que une association, une buvette ou une multinationale pourrait vous le dire. Donc simplement, agissons sur les bons leviers, à savoir l'offre, élargir l'offre naturellement. Regardez un peu la façon dont les prix sont révisés dans certains secteurs d'activité, on aurait de très belles surprises.
Mais sauf que les prix, tout va augmenter, ça va être la hausse, ça va être la flambée, l'énergie, le gaz, l'alimentaire, tout va, pardonnez-moi la trivialité du terme, ça va péter.
Les services également. Alors même ouais,
les services également. Je parle des tickets de métro, Navigo, etc. etc. Donc comment on va s'en sortir?
Mais par ailleurs, on évoquait...
La France ne va-t-elle pas s'appauvrir, tout simplement?
On évoquait les aides. Il y a un certain nombre d'aides qui n'ont pas été ciblées. Et ça, c'est un véritable défaut. C'est-à-dire que quand on fait une ristourne de 30, 20 ou 10 centimes à la pompe. Bah c'est pour tout le monde. Sauf qu'il y a des gens qui en ont besoin et d'autres qui en ont moins besoin. Et donc, il faut qu'on aille. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que va faire le gouvernement, puisque l'aide, le fameux chèque qui va être distribué, il va cibler les gros rouleurs qui sont en plus grande difficulté vis-à-vis du carburant. Donc,
c'est l'éternel débat entre l'égalité et l'équité des mesures. Hmm. Mais prenons l'exemple qu'on vient de donner sur les 20 ou 30 centimes, parce que c'était 20 du gouvernement et 30 de total à la pompe. Ce qui se passe, c'est que celui qui a moins besoin, avec un fort pouvoir d'achat, qui roule dans son SUV, quand il bénéficie des 30 ou 50 centimes de réduction, il ne les pique pas à celui qui en a le plus besoin. Formellement, il n'y a pas de vase communicant, il ne lui prend pas. Ils en bénéficient tous les deux dans une moindre mesure.
C'est de la redistribution.
Ce n'est pas de la redistribution, justement, ce sont des réductions. La redistribution, ce serait de prendre, de faire une addition un peu plus élevée à celui qui a un fort pouvoir d'achat et en redonner un peu plus à celui qui en a un peu moins.
Normalement.
La redistribution, c'est ça.
C'est de la même manière. Quand on ne taxe plus, par exemple, les hauts profits, ou quand on ne taxe plus l'ISF, évidemment, on le prend en personne. C'est de l'argent qu'on ne va pas chercher dans la poche de celles et ceux qui devraient le payer. Donc, évidemment, on peut dire on le prend à personne. Mais en réalité, c'est un manque à gagner pour l'État qui peut redistribuer de manière générale, soit sur des aides, soit sur de l'équipement public, soit sur tout ce qu'on veut. Donc, j'entends bien le discours en disant mais c'est de l'argent finalement qu'on prend à personne, mais c'est quand même un manque à gagner pour l'État, et l'État
le prend à quelqu'un. Les 20 centimes c'est l'État, les 30 suivants c'était Total,
mais donc les 30 de Total
ayant fait choisi entre guillemets souverainement de faire ce geste, l'État aussi. L'État c'est le contribuable, l'argent public n'existe pas.
Les 30 centimes de Total, ils auraient pu être redistribués par exemple en salaire aux salariés de l'entreprise,
à beaucoup moins de monde. Alors
ils auraient pu être prélevés en taxes auprès de Total. Donc c'est un manque à gagner aussi pour l'État. Donc finalement c'est les revenus des uns qui font les dépenses des autres.
Au-delà de l'équité et de l'égalité, c'est l'application aussi de ces mesures. Je ne sais pas si vous vous rappelez avant cette histoire de 20 centimes à la pompe,
ils avaient commencé
à rentrer dans des mesures très compliquées avec des chèques et des mesures.
C'est parce que c'est compliqué à mettre en place. Compliqué. En réalité.
Là, il y a aussi l'applicabilité de la mesure politique et de la mesure publique. Il y a l'urgence. C'est comme quand on fait de la médecine de guerre sur le champ de bataille. C'est pas forcément un environnement bloc opératoire. Bah là, c'est pareil. On est, sur une forme de médecine de guerre, si j'ose dire, où on doit très rapidement mettre des mesures qui permettent aux uns et aux autres de limiter l'impact. Et puis je terminerai peut-être aussi là-dessus, c'est que celui qui a un fort pouvoir d'achat et qui bénéficie de cette baisse à la pompe, on va dire que son plein va lui coûter 5, 10, 15, 30 euros de moins. Son fort pouvoir d'achat, je préfère qu'il mette les 30 euros dans le resto du coin à aider un commerce de proximité plutôt que les mettre à la pompe dans la poche de Total.
Le débat continue, vous le savez, ici même. Nous allons passer à ce sujet de la Coupe du Monde. On en parlait un tout début d'émission. Sauf que là, c'est une déclaration de Sandrine Rousseau qui estime que les Bleus sont des pleutres.
Bien sûr.
Des pleutres. Pleutres.
Vous avez
entendu ? Ouais. Des pleutres. Et pointe leur manque de courage. Non, bon, la députée écologique... Qu'est-ce qu'elle cherche ?
Elle est aux abois. Elle est aux abois.
Ménade.
Elle est aux abois. Bon, elle est en train de se faire mettre à
l'écart. Au lieu de les soutenir, là,
Europe,
je sais pas.
Europe Écologie Les Verts. Elle est égale à elle-même. Ça me rappelle un certain Eric Z qui veut garder l'anonymat et qui, à un moment, pour continuer de passer sur les ondes et à la télé, était en la surenchère des sorties et des déclarations. Donc, c'est pardon hein, de faire cette comparaison-là, mais citez-moi une contribution de Sandrine Rousseau au débat public ces 6 ou 12 derniers mois qui a fait avancer les choses.
Ouais.
Entre des histoires de barbecue ou de je ne sais quoi. Pardon, mais on lui accorde beaucoup trop d'espace. Il y a des sujets.
Elle sort sur le buzz, c'est ça ?
Oui, mais pourquoi ? Parce que de toute façon, elle ne prendra pas la tête de son parti. Hmm. En tant que députée, je pense qu'elle se situe dans une honnête moyenne. C'est pas, elle n'a pas des contributions exceptionnelles, même si elles ne sont pas trop mauvaises non plus. Donc c'est qui et pourquoi ? Pour rien, pour buzzer, pour exister médiatiquement. Donc si, y a largement d'autres sujets en lien avec l'écologie qu'on pourrait aborder partout. Hein. Je ne veux absolument pas influencer la ligne éditoriale de l'émission, mais là. Elle a refait un coup pour faire parler.
Avalon a dit je pense que l'équipe de France est parmi celles qui manquent le plus de courage.
Bravo,
elle est incroyable quand même, Aminsa. Hein.
Non, mais c'est facile de se positionner, de prendre de telles positions, soit de son canapé ou de je ne sais où. Sauf que la réalité, c'est.
Puis de qualifier de pleutre. Sandrine Rousseau, c'est fort comme mot, pleutre.
Sandrine Rousseau, elle est dans le coup médiatique permanent. C'est-à-dire qu'elle est en permanence à la recherche du buzz. Elle a compris une chose, c'est qu'il fallait qu'elle fasse parler d'elle autant que possible pour exister. D'ailleurs, elle n'est pas la seule, il y en a d'autres hein, qui font pareil. Mais elle, je trouve qu'elle en exagère beaucoup. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais moi, ça commence à me poser un problème.
Oui, pourquoi ?
Au départ, je trouvais même... à la vision de Sandrine Rousseau, je trouvais que c'est bien cette manière un peu décalée d'aller chercher.
On a tous failli croire.
Le débat, etc. Mais je trouve qu'elle en a tellement abusé qu'elle a complètement abîmé, dégradé la fonction de parlementaire. Et je trouve qu'elle gagnerait à se taire un peu, à travailler davantage ses dossiers.
Vous savez quoi ? On a retrouvé. Anthony nous a retrouvé l'extrait. Justement, je crois que c'était chez nos confrères de France Info. Écoutez cette déclaration.
L'équipe de France est la plus et celle qui manque le plus et parmi celles qui manquent le plus de courage là en l'occurrence.
Ils sont pleutres.
Ils sont pleutres. En tous les cas, l'équipe de France ne fait pas preuve de courage là dans le.
Voilà l'extrait. Bon, vous l'avez entendu.
Oui, mais par ailleurs, c'est pas ce qu'on.
Pourquoi la chèvre comme ça, l'équipe de France ? Elle n'a pas besoin de ça, l'équipe de France en ce moment. Elle a besoin d'être accompagnée.
Déjà d'être soutenue, puis elle faisait référence au fait qu'ils n'avaient pas finalement fait de sortie politique pendant la Coupe du Monde en lien avec ce qu'on pouvait reprocher.
Mais ils font du foot, on leur demande pas de politiser.
C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est que moi, ce que j'attends de l'équipe de France de football, c'est qu'elle gagne la Coupe du Monde. C'est pas qu'elle fasse des sorties politico,
chacun son rôle,
économico, social dans
au politique, la politique et au sportif.
Et inversement, je m'attends pas à ce que Sandrine Rousseau monte en défense et aille marquer des buts contre la Tunisie. Pardon à mes amis tunisiens, mais voilà. Donc je pense pas que voilà. Chacun dans son rôle, très concrètement, et je pense que les moutons seront bien gardés. Mais vraiment, à mon avis, il y a vraiment. Je pense que bientôt on n'entendra plus trop parler, puisqu'elle va perdre les élections, enfin, de son parti. Elle restera une députée comme une autre, puis elle fera des sorties auxquelles on sera tous habitués et trop habitués.
Finira par s'épuiser
et elle finira par disparaître comme d'autres avant elle.
Amine ça.
Oui, mais elle finira par s'épuiser. Moi, je le dis, franchement, c'est désespérant de voir des politiques s'engouffrer dans cette brèche du buzz et ça fait pas grandir la politique. On a déjà un désintérêt important en ce moment de la part des citoyens français de la politique. Mmh. Si on n'arrive pas à les intéresser par des sujets de fond, par un travail parlementaire de fond, par la défense de leurs intérêts, etc. Enfin, les gens n'ont rien à faire et elle a rien compris, Sandrine Rousseau. Il y a 12 millions de téléspectateurs qui ont regardé l'équipe de France. Si elle croit que c'est là qu'elle va aller chercher son électorat ou en tout cas faire son petit marché, elle se trompe complètement.
Elle continue de boycotter. Je continue de boycotter le. Elle le dit.
Pour l'instant, ça a apporté bonheur à l'équipe de France. Hein.
Voilà, il y en aura plus pour les autres. Donc, Sandrine Rousseau, si tu nous entends, continue de ne pas suivre la Coupe du Monde.
D'ailleurs, je vous pose la question. Sport politique. Hein, souvent, hein, les politiciens cherchent à politiser le sport.
Et inversement.
Macron, d'ailleurs, le chef de l'État, il le fait régulièrement.
Oui, alors.
Et il dit aussi qu'il ne faut pas politiser le sport. Hein. Il dit
oui,
tout.
Oui, non, mais c'est effectivement. Alors, moi, ce que je vois, juste, je soulignais aussi.
Le sport est devenu politique aujourd'hui.
C'est que, On a parfois un constat, le sport, mais pas les sportifs. Des politiciens.
Faut faire la différence.
On a des politiciens qui viennent critiquer les sportifs, comme c'est le cas ici. Parfois, on a des sportifs qui viennent critiquer des décisions politiques, etc. Donc, et on critique aussi le monde médiatique. Enfin, tout le monde critique finalement tout le monde dans son univers.
Tout est politique,
les médias, etc. Bon, il y a des liens entre sport et d'ailleurs, on a le match États-Unis-Iran, par exemple. On
peut ou pas Angleterre-Pays de Galles.
Angleterre-Pays de Galles dans une moindre mesure. Je crois que la tension est nettement plus
pas la, oui, c'est pas la même
enfin nettement moins importante entre les deux les deux pays, mais simplement on peut pas ne pas avoir une vue politique du sport. Mais prenez un exemple, l'Iran gagne son match contre les États-Unis, imaginons, et alors en quoi ça va influencer quoi que ce soit de la situation géopolitique actuelle? Il y aura toujours des manifs en Iran, il y aura toujours des choses qui se passeront. Pareil aux États-Unis, il y aura toujours les mêmes problèmes ou les mêmes avantages. Voilà, ça ne change rien. Il y a une forme de symbolique, effectivement, on veut, on aimerait transposer. Mais si ça pouvait se régler comme ça, moi je serais pour. Hein, vous savez, si demain on faisait un match Russie-Ukraine et puis le gagnant, on dit qu'il a définitivement gagné, avec moins de victimes civiles et moins de
destruction. Mais le sport politise de plus en plus.
Ah oui,
on politise beaucoup le sport et d'ailleurs quand les sportifs prennent des positions politiques parfois on leur reproche en leur rappelant qu'ils ne sont que des sportifs et qu'ils n'ont pas à se mêler de politique. Donc moi je suis comme Ménad, je pense qu'il faut que chacun reste dans son rôle au sport, aux sportifs le sport et aux politiques la politique.
Vous avez vu d'ailleurs le tweet du chef de l'État Emmanuel Macron, là c'était hier ou avant-hier, hein, le tweet de soutien au Qatar. Vous avez vu ou pas?
Parfaitement assumé de sa part, ouais. son soutien au
Qatar. Là, on politise clairement, là, on politise le sport.
Oui, mais il y a aussi des enjeux, attention, parce qu'on il y a des enjeux économiques derrière. Il y a des enjeux économiques derrière. Le Qatar est un grand client de l'industrie aéronautique française, militaire aussi. Ouais. Donc, il y a des impératifs.
La chair,
alors, les uns comprennent pas, d'autres comprennent. Mais simplement, les deux univers, pour moi, sont pas incompatibles. On a beaucoup d'anciens sportifs. Prenez David Douillet, par exemple. Mm. Qui a quand même bien fait briller le drapeau français. Il a fini député, il a continué. J'ai rencontré récemment un sport que j'ai pratiqué longtemps, le taekwondo. Pascal Gentil, ancien champion du monde et double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, s'est lancé également dans une carrière politique. Et puis on en a d'autres aussi en Afrique, énormément, que je ne veux pas tous les citer. On peut avoir une carrière politique après une carrière sportive. Moi, je ne recommande pas de les faire en même temps, de toute façon, ce ne serait pas possible. Mais ça, par contre, c'est un avantage. Parce que quand vous vous lancez en politique après une carrière sportive qui plus est réussie, vous êtes en capacité d'afficher des qualités de persévérance, de travail, de rigueur, de discipline, d'esprit d'équipe, parfois, qui font qu'en politique, vous êtes nettement plus crédible que si vous sortez de nulle part, vous n'avez jamais fait de sport, peut-être comme Sandrine Rousseau, et que vous venez raconter n'importe quoi sur les sportifs.
Mmh. Oui, non, mais c'est toujours très difficile de...
Mais on le politise de plus en plus, j'ai remarqué.
De plus en plus, mais notamment, on le politise quand ça sert nos intérêts, c'est-à-dire que
regardez l'affaire Benzema, on l'a politisé, enfin tout.
Sûr, quand on a intérêt à politiser, on se souvient par exemple en 98 quand Jacques Chirac et Lionel Jospin jouaient des coudes pour arriver les premiers dans le vestiaire de l'équipe de France. On se souvient de la fameuse image du président de la République Emmanuel Macron le bras en l'air en plein stade lors de la dernière Coupe du Monde.
Exact.
Enfin, on se souvient même d'ailleurs de sa visite dans les vestiaires avec Vladimir Poutine. Donc on le politise à outrance et quand le sport ou les sportifs se mêlent de politique, on vient encore leur rappeler que c'est pas leur sujet, etc. Donc laissons-les tranquilles. Ce qu'on leur demande, c'est de gagner cette Coupe du Monde.
Juste un mot.
Kylian Mbappé, qui depuis le début de la compétition fait une diète de conférences de presse. Il ne vient pas aux conférences de presse, mais ne répond pas aux journalistes en cas de ces conférences-là, puisqu'il a revendiqué vouloir garder sa concentration, sa bulle, etc. Eh ben, il a parfaitement raison, et on risque de plus en plus d'aller vers ça. Je vous le dis parce que si à chaque fois les journalistes, plutôt que vous interrogez sur la compétition, les performances sportives viennent ramener un sujet géopolitique, comme ça a été fait par un journaliste iranien auprès d'un joueur de la sélection américaine qui a fort bien répondu accessoirement. Mais si en plus on demande en plus des qualités sportives à l'équipe de France de foot de développer des qualités politiques, ils vont avoir encore plus de boulot sur la planche. Donc moi la méthode Mbappé de dire je fais une diète de conférences de presse,
on a trouvé quand même les Trump,
c'est pas grave, l'important c'est qu'il marque et qu'on gagne et qu'il ramène la coupe à la maison.
Mais il faut bien qu'il s'exprime, Kylian Mbappé. J'aime bien. Il faut bien aussi.
C'est un choix qu'il a fait, mais je pense que c'est pour éviter, c'est un point de vue personnel, mais que c'est pour éviter d'être interpellé sur des questions qui n'ont rien à voir avec le sport.
On marque une pause, 19h13, et on se retrouve tout de suite après. Dernière ligne droite, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
19h, 18. Dernière ligne droite avec Aminsa, élu à la Courneuve, mais également aussi avec notre consultant numérique en scène élu, c'est Ménad Ochenir. Autre crise, vous savez quoi, c'est la Chine. Là, on peut parler d'une crise, hein, véritable pour le président chinois Xi Jinping. Manifestations censurées, protestataires qui contournent la censure, arrestations. Bref, messieurs, la Chine est en train d'emprunter un virage où les manifestants, évidemment, on observe que la colère monte en Chine. Et la question que je vous pose, c'est cette fameuse censure. Aminsa.
D'abord, la censure en Chine, c'est quand même pas nouveau. Ça existe depuis quelques décennies maintenant. Non, le problème du régime chinois aujourd'hui, c'est qu'il s'est engagé dans une méthode qu'il ne maîtrise plus. Ça fait quand même, ça va faire bientôt 4 années, en 2023, que cette crise sanitaire a démarré en Chine, je le rappelle.
Ça fait 3 ans, ouais, qu'il l'est.
Il y a eu, évidemment, quand les Chinois sont sur les réseaux sociaux ou sur leur chaîne de télé, etc., bah, ils voient bien que le reste du monde est complètement déconfiné, qu'il n'y a plus de port du masque. Et d'ailleurs, la Coupe du Monde a été un véritable révélateur pour eux. On voit bien d'ailleurs que le régime chinois tente de censurer les réseaux sociaux, etc., pour empêcher que tout ça vienne provoquer des mouvements. Il semblerait que tout ça soit en train d'être circonscrit par le pouvoir chinois. Mmh. Mais le problème du pouvoir chinois, c'est qu'aujourd'hui, il ne peut pas déconfiner.
Sauf que là, les manifestations sont d'une ampleur inédite.
Oui,
chers amis.
Alors, c'est ce qu'on dit, sauf que, juste une dernière chose, c'est qu'il y a un problème, c'est que comme il n'y a pas de d'immunité collective, comme on la connaît aujourd'hui ici en France, à la fois par la vaccination, par le fait de
politique zéro Covid.
Voilà,
quoi,
sauf qu'en Chine, demain, s'il y a un relâchement,
exactement,
eh ben, on va aller vers une contamination, exactement, qui va être débordante, qui pourrait même impacter les voisins, voire même s'exporter jusqu'en... Qui pourraient être suscités par cette contamination généralisée.
C'est exactement...
Ménad, au Chénir.
C'est exactement mon propos, c'est que on ne dirige pas un pays d'1,4 milliard d'habitants. Rendez-vous bien compte, hein, 1400 millions d'habitants, pour parler comme on dirige un pays comme le nôtre de 70 millions. Donc, selon moi, je ne choque personne, mais ne pas regarder la manière dont l'État chinois dirige, le gouvernement chinois dirige son pays, avec les yeux d'un Français qui regarde son propre gouvernement diriger la France. Donc, pour moi, il y a déjà peut-être une prise en compte d'un biais culturel. Ensuite, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit, c'est que la politique là-bas, l'immunité collective, la vaccination, etc., n'ont peut-être pas eu les mêmes performances que chez nous. Mm-hmm. Et si ça repart là-bas, ça repart plus vite, plus gros que si ça repartait chez nous. Parce qu'on a quand même un maillage territorial d'hôpitaux plus important. On a quand même si d'aucuns vont vous dire qu'ils ne sont pas forcément bien équipés, on a beaucoup plus de dispositifs qui permettent de juguler la crise que peut-être là-bas où les campagnes sont finalement assez, je ne veux pas dire délaissées, mais en tout cas beaucoup moins bien équipées que chez nous. Alors, je regrette les incidents qu'il y a pu y avoir là-bas, mais c'est vrai que regarder les images de la Coupe du Monde, c'est pas forcément ça qui va les motiver à rester chez eux. Et là-dessus, le gouvernement chinois, aucune surprise, il est égal à lui-même, il a une forme de rigidité et de fermeté, mais le gouvernement chinois très régulièrement évoque l'unité de son
territoire. Mais une fois qu'on a dit ça, quand même, la Chine est tout de même en permanence rattrapée par la censure.
Est-ce que c'est ma question?
Pourquoi les pays occidentaux et la France, les États-Unis, Joe Biden a dit qu'ils suivaient de près la situation en Chine. Enfin, ce matin, on parlait même de TikTok, parce que TikTok, je le rappelle, c'est un géant chinois. Donc, bizarrement, là, dans la période que l'on connaît, avec la crise russo-ukrainienne, etc., on sait très bien ce qu'est la Chine dans ce conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. On voit bien qu'il y a une volonté aussi d'aller titiller le régime chinois dans cette crise. Donc c'est le timing moi qui me pose problème. C'est-à-dire que évidemment on peut avoir toutes les critiques vis-à-vis de ce régime qui est un régime autoritaire avec de la censure, etc. Sauf que bizarrement il y a quelques mois, il y a quelques années, c'était silence radio. On allait signer des contrats en grande pompe avec le régime chinois. Et on continue d'ailleurs. Et aujourd'hui, bizarrement, on est en train de se soucier du sort des Chinois. Enfin, c'est pas sérieux.
C'est pas sérieux. Alors, comment vous voyez les choses à terme? Ça veut dire qu'il risque d'y avoir un éclatement?
Non.
En Chine,
Adil, moi, je fais
et puis Taïwan, attention. Hein,
Oui, je pense que c'est lié aussi. Hein.
C'est lié aussi.
Je fais vraiment attention à la manière à quel traitement médiatique on fait. Je vous rappelle, par exemple, en 2005, quand on a eu les émeutes en France, les émeutes urbaines, quand vous regardiez les informations à l'étranger, tout le pays était à feu et à sang. Il n'y avait pas un kilomètre carré qui n'était pas en train de brûler. Alors que c'était, malgré tout, très localisé.
D'ailleurs, pour l'instant, c'est localisé à Pékin et à Shanghai.
Donc,
s'il y avait 1400 millions de gens qui étaient en feu...
1,4 milliard de personnes, c'est pas du tout ça. Donc, entendons-nous bien. Moi, je fais très attention et je regarde ça avec... Alors, je regrette de ne pas connaître le chinois parce que j'irais effectivement sur des sites en chinois. Sans doute, mais de pouvoir lire et me faire mon propre avis en langue chinoise. Parce que, à mon avis, il y a aussi un traitement médiatique qui est fait par l'Occident qui a un intérêt à ce que on montre que là-bas ça aille encore plus mal que chez nous, histoire de relativiser. Hein, c'est Talleyrand qui disait quand je m'ausculte, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. Et ben j'ai l'impression qu'on est justement en train d'essayer de se rassurer avec ce qui se passe en Chine en se disant ah, heureusement, c'est pas comme ça chez nous, regardons la Coupe du Monde.
Ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Eh bien écoutez, on va suivre nous parce que jamais messieurs, vous brossez là, effectivement, je vois que. Vous engagez pas évidemment une cause, mais quand on voit qu'il y a des journalistes et que plusieurs personnes sont en permanence arrêtées en Chine, ça aussi, hein, on en parle.
Non, mais bien
on
sûr,
on peut le regretter.
C'est une situation que l'on connaît depuis des années en Chine. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas nouveau. C'est ça qui pose problème. C'est encore une fois, c'est le timing. Il y a des intérêts à politiser ça, à en parler de manière permanente. Mais enfin,
prochain conflit, donc la Chine.
Il y a plein de sujets en France. Non, je pense pas parce que c'est la Chine, c'est quand même pas n'importe qui. Donc on titille plus qu'autre chose.
Je pense pas que surmédiatiser les arrestations arbitraires ou toute autre dérive comme ça, les surmédiatiser, ça va pas aider justement à les juguler. Laissons aussi la diplomatie faire son travail, laissons aussi le peuple chinois aussi faire son assumer ses fonctions, si j'ose dire, de peuple. Et puis
mais le peuple chinois, on le laisse pas, j'aime bien vous écouter parler.
Mais en l'occurrence, il s'exprime très régulièrement, donc je vois pas en quoi surmédiatiser ici va faire progresser la cause là-bas. Moi, ça reste encore un mystère.
D'autant plus que
moi.
C'est totalement hermétique, l'information n'arrive pas là-bas. Donc
Dans
les deux sens. Donc, je ne crois pas que le régime chinois s'attend à recevoir des leçons et à savoir comment gérer sa crise en Chine.
Eh bien, ça aussi, nous, on va le suivre de très près, ici, dans les informés. Merci, Amine Sarr.
Merci, Adil Farkan.
Élu sur la ville de la Courneuve.
Tout à fait.
Tout se passe bien, d'ailleurs?
Oui, bah, tout va bien. Va bien.
Super. Monsieur le consultant?
Oui, monsieur l'animateur
radio. Ménage de Ouchénir, à très bientôt.
À très bientôt.
On vous retrouve ici même sur l'antenne des Informés. À la réalisation, c'était Anthony. Et tous les nombreux auditeurs, évidemment, merci à vous. Parce que vous êtes nombreux de plus en plus nombreux chaque soir. Et fidèles, surtout. Merci à vous, Bilal Nedman. Et vous allez le retrouver dans, à peine quelques minutes, pour une spéciale Coupe du Monde au Qatar à Doha, mais également Time Sport jusqu'à 21h, et ensuite Vanessa à 21h. Quant à moi, je vous retrouve demain avec autant de plaisir, et d'ici là, on ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.